Les apparitions de Notre-Dame de Guadalupe. L'événement le plus glorieux et transcendantal de l'histoire du Mexique est, sans aucun doute, les apparitions de Notre-Dame de Guadalupe à l'Indien Juan Diego sur la colline de Tepeyac, du 9 au 12 décembre 1531, apparitions qui ont fini par nous laisser son image miraculeusement peinte sur la tilma de Juan Diego. Et ces apparitions sont l'événement le plus mémorable de l'histoire du Mexique, car avant elles, les Indiens étaient très réticents à accepter le christianisme, et dès que la Sainte Vierge leur a laissé son image miraculeuse, ils ont commencé à l'accepter avec la plus grande simplicité et facilité. À la Vierge de Guadalupe, la nation mexicaine doit beaucoup pour les innombrables faveurs qu'elle a reçues d'elle, pour le nombre incalculable de douleurs qu'elle a consolées, et parce que pendant de nombreuses années, la foi au Mexique a été préservée malgré les nombreuses menaces dont elle était objet des gouvernements maçonniques depuis la consommation de l'indépendance, dont le pire était l'imposition de l'école laïque, qui a plongé la majorité du peuple mexicain dans la plus regrettable ignorance religieuse, les laissant impuissants contre la superstition, le fanatisme et l'hérésie. Et la Très Sainte Vierge a donné la force aux plus de 50 000 martyrs mexicains des Cristiadas dans le premier tiers du XXe siècle. Le 29 novembre 1972, le voyant d'alors, Clemente Dominguez, a visité le sanctuaire au Mexique, et la Très Sainte Vierge Marie, sous l'invocation de Guadalupe, lui a dit « Je veux que le monde sache ce qui suit ». Sous cette sainte invocation de Guadalupe, des millions et des millions d'âmes se sont sauvées, toutes celles qui ont voulu vivre sous ma protection et ont voulu se réfugier sous mon saint manteau. On raconte ici la merveilleuse manière dont la Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Reine, est apparue à Tepeyac, qui s'appelle Guadalupe. D'abord, elle s'est laissée voir par un pauvre Indien appelé Juan Diego. Puis sa précieuse image est apparue devant le nouvel évêque dont frère Juan de Zumarraga. Après la prise de la ville de Mexique par le conquérant saint Hernán Cortés, la fin de la guerre et la paix entre les peuples, la foi et la connaissance du vrai Dieu ont commencé à germer, augmentant le nombre de fidèles de la véritable Église. La première apparition a eu lieu en décembre 1531. Il est arrivé qu'un pauvre Indien, appelé Juan Diego, soit venu de Cuautitlán à Santiago Tlatelolco pour entendre la messe en l'honneur de la Vierge Marie. À l'aube, il est arrivé à la colline de Tepeyac et en passant, il a entendu une musique semblable au chant de nombreux beaux oiseaux, et il s'est arrêté pour l'entendre. Parfois les voix des chanteurs se taisaient, et il lui semblait que la montagne leur répondait. Leur chant, très doux et délectable, surpassait celui de tous les oiseaux mignons qui chantent. Juan Diego s'est arrêté pour voir et s'est dit, « Suis-je digne de ce que j'entends? Peut-être que je rêve? Est-ce que je viens de me réveiller de mon sommeil? Où suis-je? Peut-être dans le paradis terrestre, dont les vieillards, nos aînés, ont parlé? Peut-être déjà au paradis? » Il regardait vers l'est, au-dessus de la colline d'où venait la précieuse chanson céleste, et au moment même où il a soudainement cessé et le silence est tombé, il a entendu une voix qui l'appelait du haut de la colline en disant « Juanito, Juan Dieguito ». Juan Diego a osé aller là où il l'appelait. Très heureux, il est monté sur la colline. Lorsqu'il a atteint le sommet, il a vu une dame d'une beauté singulière, qui se tenait là et qui lui disait de se rapprocher. Lorsqu'il est venu en sa présence, il s'est émerveillé de sa grandeur surhumaine. Son vêtement était radieux comme le soleil, le rocher sur lequel elle se tenait diffusait des lueurs comme des pierres précieuses, et la terre brillait comme un arc-en-ciel et faisait ressembler les différentes herbes qui y poussaient à l'émeraude, leur feuillage, de fines turquoises, et ses branches et ses épines brillaient comme de l'or. Juan Diego s'est incliné devant elle et a entendu sa parole très douce et courtoise, comme d'une personne qui attire et estime beaucoup. Elle a dit, « Juanito, le plus petit de mes enfants, où vas-tu ? » Il a répondu, « Madame et ma fille, je dois me rendre chez toi au Mexique, Tlatelolco, pour les choses divines que nos prêtres, délégués de notre Seigneur, nous donnent et nous enseignent. » La Vierge lui a parlé alors et lui a révélé sa sainte volonté. Elle a dit, « Sache et comprends, toi, le plus petit de mes enfants, que je suis la toujours Vierge Sainte Marie, Mère du vrai Dieu par qui on vit, Seigneur du ciel et de la terre. Je souhaite vivement qu'un temple soit érigé pour moi ici pour que je montre et donne tout mon amour, ma compassion, mon aide et ma défense, car je suis votre mère miséricordieuse. La tienne, et celle de vous tous ensemble, les habitants de cette terre, et de ceux qui m'aiment, m'invoquent et me font confiance. Pour entendre là leurs lamentations, et pour remédier à toutes leurs misères, chagrins et douleurs. Et pour accomplir ce que ma clémence propose, va au palais de l'évêque du Mexique et tu lui diras que je t'envoie pour lui montrer ce que je désire beaucoup. Qu'ici, dans la plaine, il me bâtisse un temple. Tu lui diras attentivement tout ce que tu as vu et admiré, et ce que tu as entendu. Sois assuré que je l'apprécierai bien et que je le paierai, car je te rendrai heureux et tu mériteras beaucoup. Car je récompenserai le travail et la fatigue avec lesquels tu vas faire ce que je te confie. Écoute, tu as déjà entendu mon ordre, mon fils, le plus petit, va mettre tous tes efforts. » Et après avoir dit cela, elle l'a envoyé voir Monseigneur l'évêque, pour lui raconter tout ce qu'il avait vu, lui faire savoir son souhait d'y avoir un temple et lui dire comment elle avait promis de le récompenser pour tout ce qu'il ferait pour elle. Aussitôt, il s'est incliné devant elle et lui a dit : « Madame, je vais faire ta course, car maintenant je te dis au revoir, moi, ton humble serviteur. » Puis il est descendu aussitôt faire sa course. Et il est allé sur la route qui mène directement à la ville de Mexique. Entré dans la ville, il s'est rendu sans délai au palais de l'évêque, qui était le prélat venu peu de temps auparavant et qui s'appelait Don Frère Juan de Zumarraga, religieux de Saint François. Dès son arrivée, il a essayé de le voir. Il a prié ses serviteurs d'aller l'annoncer, et après un bon moment ils sont revenus l'appeler car Monseigneur l'évêque lui avait ordonné d'entrer. Après être entré, il s'est incliné et s'est agenouillé devant lui. Aussitôt il lui a donné le message de la Dame du Ciel. Et il lui a également dit tout ce qu'il avait admiré, vu et entendu. Monseigneur l'évêque l'a reçu avec bienveillance et l'a écouté attentivement. Mais il ne semblait pas croire que la Vierge Marie lui était apparue, malgré le fait que tout chrétien sait bien que, comme l'a dit saint Paul, Dieu choisit ce que le monde considère comme insensé pour confondre les sages, et les faibles pour confondre les forts. Après avoir entendu tout son discours et son message, il lui a seulement répondu : « Laisse-moi y réfléchir. Pour le moment que Dieu soit avec toi, et tu reviendras, mon fils, et je t'entendrai plus lentement. Je le verrai dès le début et je penserai à la volonté et au désir avec lesquels tu es venu. » Juan Diego est parti, et il est revenu triste parce que son message n'a pas été accompli. Le même jour, il est retourné directement au sommet de la colline et a trouvé la Dame du Ciel, qui l'attendait, là où il l'a vue la première fois. Quand il l'a vue, il s'est prosterné devant elle et il a dit : « Madame, ma fille, je suis allé là où tu m'as envoyé faire ta course, quoiqu'avec peine je suis entré là où se trouve le siège du prélat, je l'ai vu et j'ai fait passer ton message, tout comme tu m'avais dit, il m'a reçu avec bienveillance et m'a écouté attentivement. Mais en me répondant, il ne semblait pas me croire, et il a dit : « Tu reviendras, je t'écouterai plus lentement, je verrai dès le début le désir et la volonté avec lesquels tu es venu. » J'ai parfaitement compris dans la manière dont il m'a répondu, qu'il pense que c'est peut-être mon invention que tu veux qu'il fasse ici un temple, et que ce n'est pas ton ordre. Pour cette raison, je te prie fortement, madame et mon enfant, de confier à l'un des principaux, connu, respecté et estimé, de porter ton message pour qu'il le croie. Parce que je suis un homme de rien, un bout de ficelle, un escabeau de bois, une rognure, une feuille, du menu fretin, et toi, ma fille, madame, tu m'envoies dans un endroit où je ne vais pas, et où je ne m'arrête pas. Pardonne-moi de t'avoir causé un grand chagrin et d'être tombé dans ta colère, madame et ma maîtresse. » Ainsi, il a prié la Sainte Vierge de mieux utiliser un autre messager qui valait plus que lui qui ne valait rien, puisqu'il n'était qu'un pauvre indien méprisable, et dont l'évêque ne croyait pas les paroles. La Sainte Vierge a répondu : « Écoute, mon fils, le plus petit, comprends que j'ai beaucoup de serviteurs et messagers, à qui je peux confier pour porter mon message et faire ma volonté, mais il est absolument nécessaire que tu demandes et que tu aides toi-même, et que ma volonté s'accomplisse avec ta médiation. Je t'en supplie beaucoup, mon fils, le plus petit, et je t'ordonne strictement que tu retournes demain voir l'évêque. Dis-lui en mon nom et fais-lui savoir pleinement ma volonté, qu'il doit accomplir le temple que je lui demande. Et dis-lui encore que c'est moi en personne, la Vierge Marie, Mère de Dieu, qui t'envoie. » Juan Diego a répondu avec toute humilité : « Madame et ma fille, que je ne t'afflige pas, j'irai très volontiers accomplir ta mission, en aucun cas je ne manquerai de le faire, et je ne considère pas le chemin difficile. Je vais faire ta volonté. Mais peut-être ne serai-je pas entendu avec plaisir. Ou si je suis entendu, je ne serai peut-être pas cru. Demain après-midi, au coucher du soleil, je viendrai t'expliquer la réponse du prélat à ton message. Je te dis déjà au revoir, ma fille et madame. Repose-toi entre-temps. » Puis il est rentré chez lui pour se reposer. Le lendemain, dimanche, très tôt le matin, il a quitté sa maison et est allé directement à Tlatelolco, pour s'informer des choses divines et voir le prélat immédiatement. Après avoir entendu la messe, Juan Diego est allé au palais épiscopal. Dès son arrivée, il a fait tout son possible pour le voir, et encore avec beaucoup de peine il l'a revu. Il s'est agenouillé à ses pieds, il a été attristé et a pleuré quand il a présenté le mandat de la Dame du Ciel, Si seulement il croyait en son message et en la volonté de l'Immaculée de construire son temple à l'endroit où elle avait montré qu'elle le voulait. Monseigneur l'évêque, pour être sûr, lui a posé beaucoup de questions, où il la voyait et comment elle était. Et il a rapporté tout parfaitement à Monseigneur l'évêque. Il a expliqué avec précision sa silhouette et tout ce qu'il avait vu et admiré, qu'en tout, elle a montré qu'elle était la très sainte toujours Vierge Mère du Sauveur notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fois-ci, l'attention de Monseigneur l'évêque a été attirée sur la fermeté avec laquelle Juan Diego a donné le message et a décrit la dame qu'il a envoyée, et aussi qu'il l'a ratifié tout, sans hésitation, ni rétractation. Cependant, il a dit que ce ne serait pas seulement à cause de sa parole et de sa pétition que sa demande devrait être satisfaite, mais qu'il avait également besoin d'un signe pour pouvoir croire que la Dame du Ciel elle-même l'avait envoyé. Alors, quand il a entendu cela, Juan Diego lui a demandé quel signe il voulait pour qu'il aille le demander à la Dame du Ciel, mais l'évêque ne l'a pas précisé et l'a renvoyé. Il a immédiatement envoyé des gens de sa maison en qui il avait confiance pour le suivre et regarder où il allait, qui il voyait et à qui il parlait. Cela a été fait. Juan Diego est parti sur la route. Ceux qui le suivaient ne l'ont vu parler à personne, mais en passant le pont au bout de la route, ils l'ont perdu de vue et bien qu'ils cherchent partout, ils ne pouvaient le voir nulle part. Alors ils sont revenus, non seulement parce qu'ils étaient empêchés, mais aussi parce qu'il avait déjoué leur tentative, et cela les a mis en colère. Ils sont allés informer à Monseigneur l'évêque, le pressant de ne pas le croire, et lui ont dit de ne plus se tromper. Qu'il avait inventé ce qu'il était venu dire, ou qu'il avait rêvé de ce qu'il avait dit et demandé. En bref, ils se sont demandé si, s'il revenait, ils devraient l'attraper et le punir durement, afin qu'il ne mente ou ne triche plus jamais. Pendant ce temps, Juan Diego, qui ne s'était pas rendu compte qu'il était suivi, quand il est arrivé au pont a continué son chemin jusqu'à l'endroit où il avait l'habitude de voir la Sainte Vierge, et là, il l'a vue, et tout naturellement il lui a fait savoir que Monseigneur l'évêque avait demandé un signe pour s'assurer que c'était elle qui l'envoyait. La dame lui a répondu. « C'est bien, mon fils, tu reviendras ici demain pour que tu puisses apporter à l'évêque le signe qu'il a demandé, avec cela il croira et à ce sujet il ne doutera plus ou ne te soupçonnera plus, et sache, mon petit-fils, que je te paierai pour tes soins et le travail et la fatigue que tu as entrepris pour moi, alors, par maintenant, je t'attendrai ici demain. » Le lendemain, lundi, quand Juan Diego a dû apporter le signe pour être cru, il n'est pas revenu, car à son retour chez lui, un de ses oncles, nommé Juan Bernardino, qui avait la peste, était très grave. Il est d'abord allé appeler un médecin, et il l'a aidé. Mais il n'y avait plus de temps, il était déjà très grave. Cette nuit-là, son oncle l'a supplié de partir à l'aube et d'aller à Tlatelolco pour appeler un prêtre, afin qu'il se confesse et se prépare, car il était très sûr qu'il était temps pour lui de mourir et qu'il ne se remettrait plus jamais. Le mardi, très tôt le matin, Juan Diego est sorti de sa maison pour aller à Tlatelolco pour appeler le prêtre. Et quand il est arrivé au chemin qui mène au flanc de la colline de Tepeyac, à l'ouest, où il passait habituellement, il s'est dit « Je vais tout droit, de peur que la dame ne vienne me voir, et me retienne sûrement pour porter le signe auprès là, comme elle avait prévu avec moi. Que d'abord notre affliction nous quitte et d'abord j'appelle rapidement le prêtre, mon pauvre oncle l'attend certainement. » Puis, il a fait le tour de la colline, l'a monté et il est passé de l'autre côté, vers l'est, pour rejoindre bientôt le Mexique et ne pas être arrêté par la Dame du Ciel, car il était urgent d'appeler le prêtre. Il pensait qu'en faisant le tour qu'il avait pris, la Vierge ne pouvait pas le voir en regardant bien partout, mais bientôt il a vu la Dame du Ciel descendre du sommet de la colline où il la voyait habituellement. Elle est venue à sa rencontre sur le flanc de la colline et a dit « Quoi de neuf, mon fils, le plus petit? Où vas-tu ? » Juan Diego s'est incliné devant elle. Il l'a saluée et lui a fait savoir en toute simplicité que son oncle était gravement malade et qu'il était à la recherche d'un confesseur, après quoi il irait volontiers prendre le message et le signe qu'elle allait lui donner pour l'évêque. Après avoir entendu le discours de Juan Diego, la très pieuse Vierge a répondu. « Écoute et comprends, mon fils, le plus petit, ce n'est rien, ce qui t'effraie et t'afflige, que ton cœur ne se trouble pas, ne crains pas cette maladie, ni aucune autre maladie et angoisse. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous ma protection? Ne suis-je pas ta santé? Tu n'es pas sur mes genoux? De quoi d'autre as-tu besoin? Ne sois ni attristé ni dérangé par autre chose. Ne sois pas affligé par la maladie de ton oncle, qui n'en mourra pas maintenant, il est sûr qu'il est déjà guéri. » Lorsque Juan Diego a entendu ces paroles de la Dame du Ciel, il se sentait très consolé. Il était heureux et convaincu, et ne se souciait plus de trouver un confesseur pour son oncle, qui était guéri de sa maladie à ce moment et à cette heure. Il lui a demandé de l'envoyer le plus tôt possible voir Monseigneur l'évêque, afin de lui apporter un signe et une preuve, pour qu'il le croie. La Dame du Ciel lui a alors ordonné de monter au sommet, là où il l'avait déjà vu. Elle lui a dit « Monte, mon fils, le plus petit, au sommet de la colline, où tu m'as vu et où je t'ai donné des ordres, et tu verras qu'il y a différentes fleurs, coupe-les, assemble-les et ramasse-les, et descends aussitôt et amène-les en ma présence. » Juan Diego a monté aussitôt la colline, et, quand il est arrivé au sommet, il a été très étonné que tant de roses variées et exquises aient poussé, avant la saison où ils fleurissent normalement, car à ce moment-là la glace durcissait. Elles étaient très parfumées et pleines de rosées nocturnes, qui ressemblaient à des perles précieuses. Puis il a commencé à en couper autant que son tilma ou tablier pouvait contenir, et il les a rassemblées sur ses genoux. Il est descendu aussitôt et a apporté à la Dame du Ciel les différentes roses qu'il avait coupées. Au moment où elle les a vues, elle les a prises dans sa main et puis les a mises à nouveau sur ses genoux en disant « Mon fils, le plus petit, cette diversité de roses est la preuve et le signe que tu apporteras à l'évêque. Tu lui diras en mon nom de voir ma volonté en cela et qu'il doit l'accomplir. Tu es mon ambassadeur, très digne de confiance. Je t'ordonne strictement de déplier ta couverture uniquement devant l'évêque pour lui montrer ce que tu apportes. Tu raconteras bien tout. Tu diras que je t'ai ordonné de monter au sommet de la colline, d'aller couper des fleurs. Et tout ce que tu as vu et admiré. Afin que tu puisses persuader le prélat à te donner son aide, pour que le temple que j'ai demandé soit érigé. » Après que la Dame du Ciel lui avait donné son conseil, il s'est mis sur la route qui va directement à la ville de Mexique. Il est parti heureux et sûr de réussir, apportant avec grand soin ce qu'il portait sur ses genoux, de peur que quelque chose ne se détache de ses mains, et appréciant le parfum des fleurs variées et belles. Bien que les domestiques l'aient fait attendre longtemps, Juan Diego a pu enfin voir l'évêque. Lorsqu'il est entré, il s'est humilié devant lui, comme auparavant, et a raconté tout ce qu'il avait vu et admiré, ainsi que son message. Il a dit « Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as ordonné, d'aller dire à ma maîtresse, la Dame du Ciel, Sainte Marie, précieuse Mère de Dieu, que tu as demandé un signe pour pouvoir me croire que tu dois lui construire le temple où elle te demande de le faire, et je lui ai aussi dit que je t'avais donné ma parole que je t'apporterais un signe et une preuve comme tu me l'avais demandé, de son souhait. Elle a condescendu à ton message et a admis avec bienveillance ce que tu demandes, un signe et une preuve pour que sa volonté s'accomplisse. Très tôt aujourd'hui, elle m'a envoyé te revoir. Je lui ai demandé le signe pour que tu me croies, comme elle m'avait dit qu'elle me le donnerait. Et elle l'a immédiatement rempli, elle m'a envoyé au sommet de la colline, où je l'avais déjà vue, pour aller couper plusieurs roses. Après les avoir coupées, je les ai descendues, elle les a prises dans sa main et les a mises à nouveau sur mes genoux, pour que je puisse te les apporter et te les donner en personne. Même si je savais bien que le sommet de la colline n'est pas un endroit où poussent les fleurs, car il n'y a que beaucoup de rochers, de chardons, d'épines, de figuiers, de barbarie et de mesquites, je n'ai pas hésité. Quand je suis arrivé au sommet de la colline, j'ai vu que j'étais au paradis, où il y avait ensemble toutes les fleurs diverses et exquises, brillantes de rosée, que j'ai ensuite commencé à couper. Elle m'a dit pourquoi je devais te les donner. Et je le fais, afin que tu puisses voir en elle le signe que tu demandes et accomplir sa volonté. Et aussi pour que la vérité de ma parole et de mon message soit connue. Les voici, reçois-les. Puis il a déployé sa couverture blanche, car il avait les fleurs sur ses genoux. Et toutes les différentes roses ont été dispersées sur le sol, qui étaient des roses de Castille que l'évêque connaissait bien, et à ce moment, dans le vêtement, apparaissant soudainement, était l'image précieuse de la toujours sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, telle qu'elle est conservée aujourd'hui dans son temple de Tepeyac, qui s'appelle Guadalupe. En plus de ce miracle, un autre grand prodige s'est produit, qui n'était remarqué que longtemps plus tard. Lorsque Juan Diego a étendu sa tilma devant l'évêque et les autres personnes présentes, la scène est restée imprimée dans les yeux de l'image miraculeuse de la très sainte Vierge de Guadalupe. Après que Monseigneur l'évêque l'avait vue, lui et tous ceux qui étaient là se sont agenouillés. Ils l'ont admiré beaucoup. Ils se sont levés. Ils étaient attristés et affligés, montrant qu'ils le contemplaient avec leur cœur et leurs pensées. L'évêque, avec des larmes de tristesse, a prié et demandé pardon de ne pas avoir exécuté sa volonté et son mandat. Lorsqu'il s'est levé, il a détaché du cou de Juan Diego, où elle était attachée, la couverture sur laquelle la Dame du Ciel est apparue. Puis il l'a prise et est allé la mettre dans son oratoire. Un jour de plus, Juan Diego est resté dans la maison de l'évêque qui le retenait encore. Le lendemain, il a dit « Va montrer où la Dame du Ciel veut que son temple soit érigé. » Tout le monde a été immédiatement invité à le faire. Dès que Juan Diego a indiqué où la Dame du Ciel voulait que son temple soit érigé, il a demandé la permission de partir. Il voulait maintenant rentrer chez lui pour voir son oncle Juan Bernardino, qui était très malade quand il l'a quitté pour appeler un prêtre pour le confesser et le préparer, et la Dame du Ciel lui avait dit qu'il était déjà guéri. Mais ils ne l'ont pas laissé partir seul, mais l'ont plutôt accompagné chez lui. Quand ils sont arrivés, ils ont vu son oncle qui était très heureux et qui ne souffrait pas. Il était très étonné que son neveu soit arrivé accompagné et très honoré. Juan Diego a expliqué la raison pour laquelle il est arrivé si bien accompagné et lui a raconté les apparitions et que la Vierge lui avait dit qu'il était guéri. Son oncle a déclaré qu'il était vrai qu'elle l'avait guéri en ce moment-là et qu'il l'avait vu de la même manière qu'elle était apparue à son neveu. Sachant d'elle qu'elle l'avait envoyé au Mexique pour voir l'évêque, et il a ajouté qu'elle lui avait dit de dire à Monseigneur l'évêque ce qu'il avait vu et de quelle manière miraculeuse elle l'avait guéri. Et que son image bénie devait être nommée, la toujours sainte Vierge Marie de Guadalupe. Selon les interprètes, le mot Guadalupe dans la langue indigène signifie « celle qui écrase la tête du serpent ». L'évêque a eu cette autre vérification de la présence de la Sainte Vierge à Tepeyac, qui était la merveilleuse guérison de l'oncle de Juan Diego, à qui était révélé le nom de la Vierge Marie. Juan Bernardino et son neveu ont été accueillis par l'évêque dans sa maison pendant quelques jours, jusqu'à ce que le temple de la Reine de Tepeyac soit érigé. Monseigneur l'évêque a transféré à la Grande Église l'image sainte de la bien-aimée Dame du Ciel. Il l'a sortie de l'oratoire de son palais, où elle se trouvait, pour que tout le monde puisse voir et admirer son image bénie. La ville entière était émue, il venait voir et admirer son image pieuse, et la prier. Il s'étonnait grandement qu'elle soit apparue par miracle divin. Car personne dans ce monde n'a peint cette image précieuse. Une autre preuve de la vérité des apparitions est la prodigieuse propagation de la foi. En 10 ans d'efforts héroïques, les vertueux missionnaires qui sont venus la propager n'ont réussi à baptiser que très peu d'Indiens, et la plupart d'entre eux étaient des petits-enfants ou de nouveau-nés. Après la venue de la Vierge, les Indiens ont demandé le baptême en si grand nombre que les ministres du Seigneur ne pouvaient pas arriver à les baptiser. L'historien et missionnaire Motolinia a dit que 9 millions ont été convertis au cours de son temps, après les apparitions. L'universalité et la croyance profondément enracinées dans les apparitions de la Sainte Vierge sont remarquables. On peut dire que tous les Mexicains de partout et de tous les temps ont eu une foi très ferme dans les apparitions de la Vierge, que les contradictions de certains sceptiques ou les attaques de leurs ennemis ne pouvaient affaiblir, plutôt chaque jour, cette croyance s'enracinait davantage et la dévotion à la Sainte Vierge de Guadalupe augmentait. Dès les XVIIe et XVIIIe siècles, elle s'était répandue en Amérique centrale et aux Philippines. Un autre miracle est la préservation de l'image sacrée à travers les grands dangers de destruction auxquels elle a été exposée et parmi lesquels il faut mentionner qu'elle a été dynamitée en novembre 1921. La bombe, placée à côté de l'image sacrée, a causé divers dommages dans le temple. Un lourd crucifix de bronze qui était sur l'autel a été jeté à distance et plié en arc. Le tableau de San Juan Nepomuceno, qui était derrière l'autel et était très lourd, a été presque déplacé, mais même pas le verre du cadre qui contient l'image n'était cassé. Le jeudi 4 décembre 1980, au Mexique DF, à midi, le pape Saint Grégoire XVII a prié avec ferveur devant le tableau sacré de Notre-Dame de Guadalupe. La prière devait être faite à l'extérieur du temple moderne dégoûtant et répugnant, où la peinture de la Vierge Marie est vénérée, car une messe satanique progressive commençait en ce moment-là. Cependant, de cet endroit, la Sainte Vierge pouvait être parfaitement vue. Après la prière, sa sainteté a donné la bénédiction. Il est intéressant de noter que l'apparition de la très Sainte Vierge Marie de Guadalupe a eu lieu en 1531, lorsque le méchant roi Henri VIII d'Angleterre a renié sa femme légitime pour épouser une autre femme et a ainsi conduit sa nation à l'apostasie. Grâce à cette apparition, la Sainte Église a reçu de nouveaux membres pour remplacer les apostats et a conquis un nouveau continent pour remplacer les nations perdues par le protestantisme. Ainsi, la parabole des invités au mariage s'est accomplie et un peuple a été appelé à l'Église qui, à peine une décennie plus tôt, était encore engagé dans l'idolâtrie et les sacrifices rituels des humains. Grâce au miracle de la Sainte Vierge, les Mexicains ont reçu la foi que les Anglais ont perdue. De même, nous les Palmariens devons remercier la très Sainte Marie de nous avoir donné la foi que l'Église de Rome a perdue à cause de son apostasie. Elle nous a même donné une foi plus enrichie qu'auparavant, dans la doctrine palmarienne. Nous devons correspondre à ces grâces qui nous ont été accordées. Lorsque l'Église avec siège à Rome a perdu la foi, la très Sainte Marie a concentré son attention sur un petit endroit, déversant toutes ses grâces dans cette oasis du désert où l'Église est abritée. Quand les rayons du soleil sont concentrés, avec une loupe, en un seul point, Alors une lumière très intense et une grande chaleur se forment. De cette manière à El Palmar la foi brille, enrichie et éclairée, et aussi, sous ses rayons magnifiés, le feu de l'amour divin doit brûler dans nos cœurs afin de correspondre à la prédilection que la Sainte Mère de Dieu nous a montrée dans ses apparitions. De même, à El Palmar, la parabole des invités du mariage a été accomplie, parce qu'une fois de plus, Jésus a choisi des hommes humbles et simples pour constituer son Église. Et, à son tour, il s'est dispensé des hiérarques de l'Église romaine qui, ayant été appelés auparavant, ont rejeté son invitation. Comme à Guadeloupe, la construction d'un temple a été demandée ou une image miraculeusement peinte et vénérée, ici c'est la Sainte Face du Saint-Suaire.